France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Et invité ce matin, le journaliste et romancier Robert Little pour Koba, son roman 20e en date aux éditions Baker Street. Koba, premier nom de guerre de Staline. Un roman à hauteur d'enfant, puisque le narrateur est un enfant orphelin et qu'il met en scène à Moscou ses rencontres avec un vieillard péremptoire, un officier soviétique visiblement haut placé, un proche du camarade Staline, pense-t-on au début, dont il connaît toutes les pensées. Bonjour à vous, Robert Little.
Bonjour.
Sauf que le vieillard va s'avérer être Staline lui-même, sans déflorer le roman. Pourquoi le retrouver aujourd'hui, ce Staline, malgré toute la littérature existante? Il reste pour vous une figure énigmatique?
Oui, je dois dire que j'ai été fasciné depuis longtemps avec cet caractère qui était remarquable, un grand monstre de la première moitié de le XXe siècle avec Hitler. Mais il y a quelque chose de Staline qui m'a toujours attiré, parce que il me semble qu'il y avait plusieurs Stalines. Il y avait un Staline avant 32 et un Staline après 32. Et j'ai essayé de déchiffrer le personnage de Staline. En fait, ça commence avec l'idée que j'avais que personne n'est né ogre, personne n'est né monstre. Et mon programme, mon défi que je me suis donné, c'est de trouver d'où vient le monstre Staline.
On ne naît pas ogre, on ne naît pas monstre, on le devient.
On devient, en somme.
Et par quel chemin et par quoi est-il passé pour en arriver là? Donc vous remontez le fil de sa vie, vous remontez le fil de sa jeunesse pour comprendre comment ça s'est passé.
Oui, je remonte le fil. Mais j'ai décidé, encore un défi, que la meilleure façon de remonter le fil, c'est de voir le ogre et le gangster et le monstre à travers les yeux d'un garçon qui a 10 ans et demi et 2 jours, et de voir le monstre à travers les yeux innocents de ce jeune garçon qui est turbulent, qui est surdoué, et qui pose les questions très franches. Et en fait, le clé, c'est que quand il raconte le vieux monsieur, le vieil homme, pour la première fois, le jeune garçon ne sait pas qui il est. Le jeune garçon est un stalinien. Comment on prononce ce mot?
Stalinien.
Il est et comme tout le monde en Russie à l'époque. Donc, il adore le Staline, le poster, la photo et tout ça. Et il se trouve devant un vieux monsieur et il ne reconnaît pas. Et le vieux monsieur, quelques semaines avant sa mort, en 53, était méconnaissable. Et comme Staline a dit à certains moments dans le livre que Staline a pris l'âge, mais le pancarte, la photo géante devant Goum n'a pas pris l'âge. Donc, le garçon se trouve devant quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il demande, le vieux monsieur demande pourquoi je dois parler avec vous. Et le jeune garçon donne 2 raisons. Il dit parce que je ne sais pas qui vous êtes. Et parce que je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai pas peur de vous. Et il est tutoyé. Il n'a pas peur de toi. Et le vieux monsieur dit, à ce moment-là, il répond: j'ai pas l'habitude de parler avec quelqu'un qui n'a pas peur de moi. Et pour moi, l'écrivain de cette pièce, de ce roman, c'était le moment où le lecteur doit savoir qui est le vieux monsieur, mais le garçon ne sait pas.
Est-ce que vous n'aviez pas besoin aussi, Robert Little, de la candeur de l'enfant pour désarmer le machiavélisme, voire le cynisme de Staline, pour faire apparaître cette part d'humanité?
Oui, c'est une façon de faire exactement ça. Quand on voit son monstrosité à travers les yeux de quelqu'un qui est innocent, le vieux monsieur est aussi un obsédé sexuel et un paranoïde. Il est la fin de sa vie. Et de voir ça à travers les yeux innocents d'un garçon qui n'hésite pas, qui a beaucoup de chutzpah, il n'hésite pas de poser des questions et de sortir une espèce de biographie de le vieux monsieur. Et en fait, le livre présente une biographie de Staline, mais la biographie de Staline écrit par le jeune garçon de 10 ans et demi.
Oui, mais vu par lui-même aussi. Et parfois, quand Staline se revoit, rembobine le fil de sa vie, il le fait de manière plus ou moins flatteuse, sans s'en rendre compte. Et vous écrivez, et là c'est Koba, Staline qui parle, « Dans ma tête, je suis resté le bandit de mes 25 ans, celui qui a toujours une longueur d'avance sur ces connards de gendarmes tsaristes, ne dormant jamais dans le même lit deux soirs de suite, ne baisant jamais la même fille de nuit d'affilée, dévalisant les banques et expédiant des valises bourrées de roubles à Vladimir Ilitch pour financer sa révolution mal organisée et foutraque. Ce que j'apporte à la table de Lénine, ce n'est pas le cœur ensanglanté du révolutionnaire, mais la haine purulente du paysan envers cet enfoiré de tsar. » Voilà. On le voit, à la fin de sa vie, porter ce regard sur ce parcours. Ça a quand même quelque chose aussi, votre roman du petit manuel ou du grand manuel du petit révolutionnaire, qui montre aussi comment se fomentent les colères et se nourrit la révolte, et comment on devient aussi le tyran qui est devenu Staline par la suite.
Il a la qualité que beaucoup de gens qui arrivent à un certain âge ont. Ça veut dire un regard dans le miroir. Et on nous voit comme on était 50 ans avant. Et je dois dire que ça arrive avec moi. Quand j'étais un jeune homme, j'ai fait mon service militaire sur un bateau. Et quand je regarde dans un miroir maintenant, je me vois comme jeune officier d'un bateau il y a 50 ans. Et Staline se voit comme un gangster dans la Géorgie, en braquant la banque. C'était un épisode de sa vie qu'il a adoré. Il braquait les banques, il tuait ses ennemis, il remplit les valises de roubles pour envoyer un autre révolutionnaire en exil en Europe qui est nom de guerre de Lénine. Il était arrêté 6 fois, ça c'est incroyable, hein? Et 6 fois il était envoyé en Sibérie, et 6 fois il est échappé, et revenu.
Ouais.
Et donc, il était le chef de la cellule bolchevique en Géorgie. Il a assassiné, organisé l'assassinat et participé dans l'assassinat des officiels de la tsar. Et c'était une période où c'était excitant. Il adorait la vie. Et pendant tout ça, évidemment, il couchait avec toutes les filles. Donc, il a beaucoup de regrets. Le vieux Staline, qui va mourir dans quelques semaines, regarde dans le miroir et c'est ça qu'il voit. Et c'est ça qu'il rêve.
Un tyran vieillissant.
Pardon ?
Un tyran vieillissant. Fanny Ardant, la comédienne et réalisatrice, l'a couchée sur le divan et elle a analysé ses rêves. Dans la peau de Staline, c'était Gérard Depardieu, à l'écran, il y a 2 ans, en un homme intelligent, comme le dit Fanny Ardant, qui sème après lui la terreur. Staline, c'est comme un cliché qui fait partie de la mémoire collective, disait donc la réalisatrice à la sortie de son film en 2007-2017. Extrait de la bande-annonce.
Je suis assis à une grande table, seul. Il y a le corps d'une femme qui devient rouge. La femme se tire une balle dans la tête. Elle se retourne, elle vise mon cœur. Ça m'a réveillé. Et selon toi, c'est qui cette femme?
L'archétype de la femme qui pourrait te faire peur.
C'est qui? Une femme dont j'aurais peur.
Une femme assez libre pour décider de mourir quand elle veut.
La couleur, c'est comme une lumière de l'âme. J'ai peur d'avoir perdu la mienne.
Comme nous tous.
Qu'est-ce que je vais faire de toi si tu me mens comme les autres?
Pourquoi je te mentirais?
Tout le monde ment à Staline. Même Staline ment à Staline.
Tout le monde ment à Staline, ce qui expliquait peut-être sa grande paranoïa que vous mettez aussi en scène dans votre roman Robert Little. Mais votre Staline aussi, est-ce qu'il se ment à lui-même dans la manière dont vous le faites se raconter à l'enfant? Est-ce que vous diriez, comme le Staline Gérard Depardieu devant la caméra de Fanny Ardant, est-ce que votre Staline aussi se mentait à lui-même?
Je vais commencer en disant à tel point que j'ai trouvé le film fabuleux. J'ai été tout prête à détester ça. J'ai pas imaginé que Depardieu peut devenir Staline. Et j'ai été surpris de voir à quel point il n'a pas joué Staline, mais il est devenu Staline. Et le film était magnifique. Alors, à répondre à la question, Staline se livrait, c'est ça on dit en français, il livrait à le jeune garçon. Ce qui est intéressant, c'est que Staline se sent, à la fin de sa vie, menacé par tout le monde qui est autour de lui. Et la seule personne qui ne menace pas, c'est le jeune garçon de 10 ans et demi et de 2 jours. Il pense que le jeune garçon ne pose aucune threat, aucune menace à lui. Et c'est pour ça que quand le jeune garçon pose les questions audacieuses, le vieux monsieur, il répond à ces questions. Et il dit à le jeune garçon, si vous notez mes réponses soigneusement, vous allez finir avec une biographie autorisée. C'est ça qui passe dans le livre. C'est Staline qui livre Staline à le jeune garçon.
Vous auriez aimé, vous, Robert Little, être le biographe autorisé de Staline?
D'être le jeune garçon? Oui, pourquoi pas? Mais je suis.
Ben vous l'êtes,
que,
oui.
Mais je suis. Par la force de l'imagination. Quand j'écris le roman, je suis dans le pot et dans la tête de le jeune garçon. Uh-huh. En fait, c'était le plus difficile de créer ce personnage. C'est toujours un défi pour un homme de créer le personnage dans un roman d'une femme, parce que nous ne sommes pas femmes. Mais ce défi a été différent. Moi, j'étais obligé de créer un jeune garçon. Et comme j'ai un certain âge plus que lui, et comme j'ai moins d'innocence que lui, c'était un travail de longue haleine.
Alors justement, comment passe-t-on à 85 ans d'une écriture adulte à une écriture enfantine? Vous avez dû replonger dans vos souvenirs. Vous teniez-vous un journal quand vous étiez petit, Robert
non,
Little?
Non, pas du tout.
Pas de carnet, comme
non,
Léon?
Pas du tout.
Non. Donc vous avez dû repartir en arrière. Imaginez ce que vous auriez posé, vous, comme question dans une situation comme ça. Quelle oreille vous auriez tendue? Quel regard vous auriez porté sur la vie?
Oui, oui. Quand on crée un caractère, pour le moment qu'on crée ce personnage, on se met dans le pot de ce personnage. Et c'est totalement vrai ce que vous avez dit là. Je suis devenu, à mon âge, je suis devenu un garçon de 10 ans et demi et 2 jours. Et j'étais très confortable et j'ai regardé le vieux monsieur, méconnaissable. J'avais pas peur de lui. Et le reste... Et le roman.
C'est aussi, à travers ce roman, une manière de revisiter cette page de l'histoire de la Russie et du monde. Robert Little, le père de Léon, était physicien. Il est mort accidentellement dans son laboratoire. Sa mère va être arrêtée, victime d'une des purges staliniennes, celle des médecins juifs. C'est l'affaire des blouses blanches. Ça a été un moment important, une séquence de l'histoire sur laquelle vous vouliez revenir.
Ah oui, ce qui passait à la fin de la vie de Staline a été horrible. Il a été venu tellement paranoïde et antisémite. Son antisémitisme latent est sorti dans le dernier mois de dernière semaine et il mijotait un programme d'envoyer 2,5 millions de juifs, 2,5 millions. Ça veut dire tous les juifs de Russie, ils avaient l'idée d'envoyer en Sibérie et planter dans une colonie là. Et la première étape de tout ça, c'était les arrestations des médecins juifs de le Kremlin. Vous appelez ça le blanche.
Les blouses blanches.
Ce qui était intéressant, Pravda, tous les jours, avait les titres, les Israélites, médecins arrêtés, etc., etc. Et le jour que Staline est morte, qui était le 5 mai 1953, les headlines in Pravda arrêtés pile, il n'avait plus mention de ces docteurs qui étaient dans le Kremlin arrêtés, et ils étaient relâchés, tous relâchés, sauf les deux qui étaient mortes sur torture dans le Lubyanka. La femme médecin de Léon, très blessée par la torture, revient à la maison. Ça, c'est la fin de le livre. Et Léon retrouve sa mère. Son père est mort, mais il retrouve sa mère.
Aujourd'hui, Robert Little, quelle mémoire du stalinisme en 2013. Voilà comment le président russe actuel, Vladimir Poutine, regardait dans le rétroviseur de l'histoire et se défendait de tout emprunt à cette période.
Le stalinisme est lié au culte de la personnalité, aux violations massives de la légalité, aux répressions et aux camps. Il n'y a rien de tel en Russie. Et j'espère que nous ne verrons plus jamais cela. Tous les citoyens de la Fédération de Russie sont égaux devant la loi. Y compris ces filles des Pussy Riot et ces personnes qui commettent des choses horribles dans des mémoriaux de guerre. Personne ne met personne en prison pour des raisons politiques, pour leurs idées politiques ou leurs actes. Ils sont punis car ils violent la loi.
Quelle mémoire du
stalinisme. Quel menteur. C'est totalement faux ce qu'il dit là. Poutine, c'est un homme très médiocre. Il vient de la KGB, vous savez ça, mais il n'était pas même le même cadre de la KGB à Berlin, parce que la crème de la KGB était à Berlin. Lui était ailleurs. Et cet homme médiocre, était très ambitieux et il a monté où il est autocrate aujourd'hui.
Mais pourquoi il ment dans ce qu'il vient de dire?
Mais il ment dans le sens qu'il veut faire exactement en Russie ce que Trump est en train de faire en Amérique. Trump veut faire America great again et Poutine veut faire Russia great again. Et l'homme le plus populaire en Union soviétique en Russie ces jours-ci est Staline, c'est pas Poutine. Et Poutine a tout fait pour monter la réputation de Staline. Donc, les jeunes générations en Russie ne connaissent pas le Staline de la collectivisation et la souffrance de le paysan et la famine dans l'Ukraine. Ils ne connaissent pas de toute cette histoire ou la question des Juifs et le pogrom contre les Juifs à la fin de sa vie. Staline, c'est l'homme qui a gagné la guerre et qui était à toutes les réunions, Yalta, etc., Casablanca, avec Roosevelt et Churchill. C'est, la Russie, c'est une grande puissance. Et la Russie, c'est un pays qui a gagné la guerre. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je crois que la France a raté un grand virage à le 60e anniversaire, même pas d'inviter Poutine. Quand les Américains et les Anglais et les Canadiens, à peu près 130 000, je crois, et 50 membres français de le commandant Kieffer sont arrivés sur la plage de Normandie, la guerre était déjà gagnée. Peut-être ils ont gagné la guerre plus vite, par quelques semaines, mais la guerre était déjà gagnée. Et j'ai pas entendu une référence à la 12 millions armées soviétiques qui a fait la guerre pour 5 ans et qui a gagné la guerre. Et c'est dommage, on n'a pas donné cette adulation à ce moment-là.
Une mémoire sélective de l'histoire et de ces pages-là, c'est ce que vous évoquiez mis en avant aujourd'hui. Voilà, c'est le retour du souvenir et on va écouter quelques notes de The Old Man's Back Again de Scott Walker. Vous connaissez sûrement cette chanson, vous Robert Little, qui nous a quitté Scott Walker en mars dernier. Le vieil homme dont il est question dans le titre n'est autre que Oncle Joe, comme l'appelaient les anglo-saxons, et le sous-titre de ce morceau est assez ironique puisque dédicacé à tous les régimes néo-staliniens.
I've seen a hand, I've seen a vision. It was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky and it crushed it to the ground, just like a beast. The old man's back again. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them
take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again.
Voilà, extrait de l'album Scott Four, The Old Man's Back Again, sorti un an après le printemps de Prague. Scott Walker qui nous a donc quitté en mars dernier, Robert Little. Ce roman, vous l'avez écrit en pensant peut-être un peu aussi au double de Dostoïevski, à ce conflit intérieur chez votre personnage Staline, mais qu'on retrouve aussi dans le personnage de Dostoïevski qui se dédouble à cette manière. Alors est-ce qu'il a été compliqué ce roman pour vous à écrire? Est-ce qu'il a fallu vous-même vous dédoubler?
Je crois que tous les romans sont difficiles à écrire.
Parce que c'est le roman russe d'un romancier américain, quand même.
Oui, oui. Mais en général, l'écriture est très difficile. Ou roman, ou journalisme, ou histoire, je ne connais pas un écrivain qui dit différent que ça. La meilleure citation dans ma vie que j'ai jamais trouvée, c'était un journaliste américain de sport qui s'appelle Red Smith. Il est un légendaire journaliste américain. Il a dit, écriture c'est très facile. Écriture c'est très facile. On ouvre un veine et on scène.
Et on trempe la plume dedans, c'est ça? Vous avez procédé comme ça?
Si le scène est bleu, on peut écrire avec ça, oui. Mm. Mais c'est à peu près ça. Thomas Mann a dit une fois, l'écrivain, c'est quelqu'un qui trouve l'écriture plus difficile que les autres. Et je suis sûr, c'est mon cas, et c'est sûr, c'est le cas de tout le monde qui écrit. C'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
C'est pas facile.
Et ça vous a demandé beaucoup de boulot, de documentation aussi.
Beaucoup.
Ouais. Vous êtes rendu sur place parce que vous accordez aussi une grande importance au décor dans ce roman, à ce palais endormi. Vous avez été sur les lieux?
Le House on the Embankment, où habite le jeune homme. Oui, c'est très bien connu, cette maison. C'était pour la nomenclature, avec les passages secrets et les pièces secrets et tout ça. Et je le connais assez bien. Et je fais beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup, avant que je commence à écrire.
Avant de vous perdre dans ce dédale, dans ce labyrinthe qu'est l'écriture. Merci beaucoup à vous, Robert Little. Koba, votre roman 20e en date vient de paraître chez Baker Street. Merci d'avoir été avec nous ce matin.